Là, vous m'entendez, hein? Je m'entends. En tout cas, si vous ne m'entendez pas, vous lèverez la main. Richard, que toute défaite, mon affaire, là. Puis, comment va votre espagnol, là? Commencez-vous à comprendre? Si, si, hey, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Donc, vous avez le titre ce matin de ce qu'on va toucher, frères et sœurs. Puis, c'est ça, la semaine prochaine, ça va être notre frère Brian. Puis, pour quand même les prochaines semaines, par la suite, on va avoir un thème, ça va être sur l'espérance. Donc, aujourd'hui, c'est pas sur l'espérance, mais quand même, ça va nous emmener à persévérer dans la vie de tous les jours, dans notre marche avec le Seigneur. Ah, OK, on n'a pas changé le... Je n'ai pas regardé. Merci, Robert. D'accord. Parfait. Ce que je vais commencer avec une question, frères et sœurs, que je vous pose. Vous réfléchirez à ça, hein? Qu'est-ce que ces cinq personnages de l'Ancien Testament ont en commun? Il faut être patient. Job. Robert, as-tu une réponse? Tu vas attendre les autres, hein? Au moins un deuxième. Moïse. Vous n'avez pas d'idée? Faites bien. Élie le prophète. OK. Ensuite, Jérémie. Puis le dernier, bien, notre ami Jonas. Je vais prier, vous allez continuer votre réflexion. C'est bon. Seigneur, on se courbe devant toi. Nos cœurs sont dans la joie de t'appartenir. Comme on chantait, Seigneur, tantôt, bien, notre dette a été payée. Nos péchés sont pardonnés par le sang précieux de Jésus qui a coulé à la croix du calvaire. Et Seigneur, de nos cœurs, oui, nous crions Alléluia, Seigneur. Merci pour ce temps encore précieux que tu veux bien nous donner, Père Céleste. On apprécie, on sait combien de frères et sœurs dans le monde aujourd'hui ont peut-être de la difficulté à se rencontrer pour des raisons variées et diverses, Seigneur. Et nous, bien, nous avons cette liberté de le faire. Alors, Seigneur, bien, oui. On veut se tourner vers toi, on veut te dire merci. Puis Seigneur, bien encore, on te prie pour ton bon Esprit Saint qui nous habite, de nous conduire, Seigneur, de nous diriger. Puis encore, bien, merci pour tout. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, est-ce que ma prière vous a inspiré à une réponse? Alain? Oui. Oui. Des humains, c'est bon. OK. Oui, c'est vrai. Ils ont persévéré, c'est vrai. C'est toutes des bonnes réponses. D'autres choses? Jonathan? OK. OK. Il ne sentait pas, c'est ça, là, comme Moïse, quand il était devant, dans le buisson ardent, il ne comprenait pas que l'Éternel l'avait choisi, puis il ne pouvait pas contribuer à aller dans ce que Dieu lui disait. Oui, c'est bon, c'est toutes des bonnes réponses. C'est vrai, hein, il ne voulait pas y aller, il est allé, mais bon. C'est vrai. OK. Élie pensait qu'il était tout seul à un moment donné, là. Hein? Oui, c'est vrai. Et Job était tout seul aussi. C'est toutes des bonnes réponses. C'est toutes des bonnes réponses. On pourrait dire beaucoup de choses, mais bon, je ne voulais pas vous poigner en vous demandant ça. C'est juste, hein, ça nous aide à focusser, à réfléchir. Puis en fait, ben, peut-être vous allez trouver ça bizarre ce que je vais vous dire, là, mais les cinq ont demandé la mort. ont demandé la mort. Ça frappe, hein? On n'est pas porté à penser à ça, là. Quoi qu'on peut dire, oui, c'est vrai, je me souviens de lui, mais peut-être là, là-dedans, il y en a, vous dites, moi, je ne suis pas trop sûr, ou je ne m'en souviens pas, puis ça se peut aussi, non? Mais effectivement, si vous voulez le noter, en tout cas, dans Job 6, versets 8 à 9, dans Moïse, c'est Nombre 11, 10 à 15, Jérémie 20, 14 à 18, puis Élie, ben, c'est dans 1 Roi 19, verset 4, Jonas, chapitre 4, verset 3. Vous allez trouver un peu là, cette mention-là où ce que chacun demandait à l'Éternel, la mort. C'est sûr qu'ils ne se sont pas suicidés parce que les Juifs ne faisaient pas ça. Ils considéraient que ça allait être un affront contre l'Éternel. Donc, ils ne considéraient jamais cette option-là comme solution, quelle que soit leur souffrance. Mais on comprend que si on demande ça, c'est parce que ça ne va pas bien. Il y a quelque chose qui se passe. C'est du sérieux, comme on dit. Mais ils se sont adressés à l'Éternel pour que lui les fasse mourir. Mais puis ce qu'on va faire, bien, aujourd'hui, on va tourner dans l'Ancien Testament, justement dans 1 Roi 18. On va regarder, c'est des passages qui sont très populaires. Cette histoire-là est très populaire, est beaucoup aimée, prisée des croyants. On va la lire, puis on va sortir des choses là-dessus qui vont nous aider. Donc, un roi. Verset 18. Chapitre 18, je m'excuse. On va commencer au verset 1. Ça dit, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Hein? » Si on lit avant, là, on voit que pendant les trois années, en fait, là, il n'y avait pas eu de pluie. Ça fait que là, l'Éternel, il dit, « Va, présente-toi devant Achab, puis je vais faire tomber de la pluie sur la face du sol. » Élie, bien, il accepte ça, il s'en va pour se présenter devant Achab. On comprend, la famine était grande à Samarie. Achab, bien, fit appeler Abdias. Abdias était le chef du palais royal du roi Achab. Puis on voit là que c'était un adorateur sincère aussi de l'Éternel. Donc, il craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Achab dit à Abdias, « Va par le pays, vers toutes les sources d'eau et vers les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Achab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre. Comme Abdias est en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, « Est-ce toi, mon monsieur, mon seigneur, Élie? » Il lui répondit, « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Achab? Qui me fera mourir. L'Éternel est vivant. Il n'est ni une nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer Achab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel? J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant, tu dis, « Va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. » Mais Élie dit, « L'Éternel des armées, dont Je suis le prophète, le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Hein? Élie dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Achab. Comment vous trouvez Élie? Courageux sûrement, ça prend du courage. Il sait un peu quand même qu'est-ce qui est possible. Mais en même temps, à travers ça, bien, son courage, pourquoi qu'il est courageux? C'est parce qu'il a confiance en l'Éternel. Hein? C'est ce qu'il dit. Il dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai. Je me présenterai en sachant que l'Éternel est avec moi. C'est pour ça qu'il a confiance. Est-ce qu'il a l'air perturbé? Est-ce qu'il a l'air là, de s'être chicané avec... je ne sais pas s'il était marié, en tout cas. Y avait-tu une chicane? Y étais-tu troublé par quelque chose? Y avait-tu une ordonnance de la cour? Il faut qu'il se présente en cour. Là, c'est sûr, il y a la cape. Non, je plaisante un peu, mais comme je dis, on essaie de voir un peu là, comment est Élie. Hein, parce qu'on va voir plus tard, il a demandé à l'Éternel la mort. Il s'est passé quelque chose. En tout cas, quand je dis ça, moi je vois quelqu'un plein de confiance en Dieu, pas arrogant, dans le sens que, oui, on pourrait dire qu'il était arrogant, pour qui il se prend, mais il n'était pas arrogant parce qu'il faisait confiance à Dieu, puis il n'a pas eu de mauvais commentaire ou quoi que ce soit. Il dit, moi je vais me présenter, l'Éternel a dit, présente-toi, je vais me présenter. Ça fait que Abdias dit à Achab que je vais être là. Donc, en tout cas, je vois une personne ici là, qui semble être bien dans sa peau, confiant, comme j'ai dit. Puis s'il y avait des problèmes personnels, ben, en tout cas, il n'en est pas parlé, là, mais ça ne transpire pas dans ce qu'on voit. Donc, par la suite, bien. On connaît l'histoire. Bien, Abdias, au verset 16, il est allé à la rencontre d'Achab, il l'informe. Bon, par la suite, Achab décide de se rendre lui-même devant Élie. Au verset 17, il dit, « À peine Achab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël, pauvre petit fou? Hein? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père. » Puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi amène les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Donc Achab acquiesça à tout ça, envoie des messagers, rassemble les prophètes. Pour verset 21, bien cette fameuse phrase, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Hein? » Décidez qui vraiment est l'Éternel. Si c'est Achab, bien servez-le. Si c'est l'Éternel, servez-le. Mais ne faites pas les deux. Quelque part, eux autres, ils faisaient un peu les deux. Là. Ils disaient, on va aller un peu tranquillement avec les Baals, les Astartés, on peut servir l'Éternel aussi. Ça fait que Achab, il dit, non, ça ne marche pas de même. On va voir qui est Dieu, puis celui-là qui se manifestera, bien, c'est lui que vous allez servir. Donc, le peuple arrive, tout ça. Donc, Élie dit ça, puis c'est drôle, hein? Le peuple n'a pas répondu. Il est resté très, très silencieux. Donc, Élie, au verset 22, il dit, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois, ils mettent le feu. Et moi, bien, je vais faire la même chose de mon côté. Puis quand ça s'est fait, bien, vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, je ferai la même chose en invoquant le nom de l'Éternel. Et que le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui sera Dieu. Et là, tout le peuple répondit, oui, c'est bien. Donc, Élie dit au prophète de Baal, bien, choisissez pour vous l'un des taureaux. Préparez-le, ce qu'ils ont fait. Puis là, bien, on voit par la suite, bien, ils ont décidé là, d'invoquer le nom de Baal au verset 26, du matin jusqu'au midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Bien, criez à haute voix. » peut-être, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose ou il est occupé, il est en voyage, peut-être qu'il dort. Il se réveillera. Donc, ils crièrent encore à haute voix, se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc, Élie, bien, leur a laissé un temps, c'était fini, parfait. Dit au peuple, approchez-vous. Le peuple s'approche. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé, prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé. Bon, il a arrangé le bois, coupé le taureau, placé ça sur le bois. Il a dit, mettez 4 cruches d'eau, versez-les sur le taureau coupé en morceaux. Donc, c'est l'Holocauste là, qui va brûler tout à l'heure. Il dit, faites ça une seconde fois, une autre fois encore, une troisième. Donc, ils ont rempli tout ça. Puis bien sûr, bien là, quand c'était tout fait, bien, Élie au verset 36. Qu'est-ce qu'il dit au verset 36? Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Hein, encore là, ici, là, on voit Élie en confiance, en obéissance à Dieu. Il fait ce qu'il a à faire, sans pas perturber, sans pas troubler d'aucune manière. Et puis il fait ce que l'Éternel lui demande. Et puis bien sûr, l'Éternel a répondu avec éclat, avec puissance. Et puis le peuple, hein, il a vu ça, puis on dit, oui, c'est vraiment l'Éternel qui est Dieu. Si on continue au verset 19. Donc, tout ça, bien, qui est arrivé? Bien, c'est sûr, Acab a rapporté à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il l'avait tué par l'épée tous les prophètes. Oui, chapitre 19, c'est ça. Merci. C'est vrai, là, j'avais arrêté à 40. Merci. Donc, on voit là qu'il a rapporté tout ça. C'est sûr que, bon, si on lit aussi avant les versets, là, bien là, c'est ça. Ah oui, là, je m'excuse, je ne suis pas rendu à 19. Je suis rendu trop loin. En verset 41, Élie dit à Acab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Acab monta pour manger, pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et s'en penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, regarda. Il n'y a rien. Il dit sept fois, retourne. À la septième fois, un petit nuage qui s'élève la mer, comme une paume de la main d'un homme, alors dit, monte et dit à Acab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Jizréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, et qui se saignit les reins et courut devant Acab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Donc, l'Éternel avait dit à Élie, là, va voir Acab, puis je vais faire pleuvoir. Donc, on voit ici là, que tout ça s'est réalisé. Puis, quand on regarde ça encore, bien, on voit là, que l'Éternel était avec Élie. Puis, je regardais ça un peu. Est-ce que vous savez la distance que que parcouru là, Élie devant le chariot d'Akab, hein, parce qu'il dit qu'il a couru, là, il courait devant lui. Il a couru 30 kilomètres. C'est tout, il est en forme, ce Élie-là. Pour moi, il prenait des produits, des protéines en poudre, puis tout ça. Pardon? Oui, ça doit venir de ça. Non, mais tu sais, quand tu regardes ça, là, physiquement, ben, c'est sûr, c'est marqué qu'il était soutenu par l'Éternel. Hein? Ça allait aider beaucoup, sûrement, là. Mais quand même, courir 30 kilomètres, c'est quelque chose. Ben oui, en plus, c'est ça, il devait être fatigué. Il me semble, 450, après deux, tu es fatigué. Non, mais c'est vrai. Non, mais quand on regarde ça, je veux dire, physiquement, tu dis, il fallait être quand même, oui, l'Éternel l'a toujours soutenu, là, on comprend, mais en même temps, c'est un homme, là, Élie, 30 kilomètres. Est-ce que psychologiquement, émotionnellement, il avait l'air atteint d'une quelconque façon, je veux dire, est-ce qu'il était troublé, est-ce qu'il vivait, il semblait vivre quelque chose de difficile? C'est une grosse victoire, émotionnellement, sûrement. Mais on ne le voit pas nécessairement là-dessus que là, il a levé ça, là, hey, on a gagné la Coupe Stanley. Là. Tout joyeux. Mais sûrement de voir ça aussi, ça a dû lui aussi le frapper. Là. Il n'a sûrement pas été indifférent à ça, me semble. Tu ne peux pas rester indifférent à ça, me semble. Si on verrait hein, le feu tomber quelque part, je pense qu'on on pourrait pas rester trop passif à ça. Là. Donc, en tout cas, moi, je regarde Élie, je me dis, il est en super forme, ce gars-là. Il est mentalement, il est psychologiquement, spirituellement, là, il est au top. Là. Bon, chapitre 19, ça change. Donc, j'avais commencé à lire, « Akab rapporte à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Bon, Jézabel envoyait un messager à Élie, « Toi, là, mon petit Coros, là, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à cette heure, je ne te fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Aïe, aïe. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. C'est spécial parce que juste avant, quand même, il avait rencontré Abdias qui avait dit un peu la même affaire. Akab, là, il court après toi. Là, puis quand il allait quelque part et il ne trouvait pas, là, il faisait jurer aux gens là, c'est mieux d'être vrai parce que je vais vous zigouiller aussi. Là, là c'est Jézabel, puis là, whoop, là il ne réagit pas de la même façon pantoute. Là. Il a eu peur pas mal, je pense. Pourtant, tantôt, il n'a pas eu peur. C'est un peu le même genre de menace. Ta vie, tu vas mourir. Mais là, pourquoi que là, il a peur? Mais c'est ça qu'il a vécu. Puis comme je dis souvent aux gens, moi, je crois souvent, pourquoi je crois en la Bible? Parce que je vois l'être humain dans soi. Je vois les êtres humains réagir comme nous, on réagit. Ce n'est pas juste des super-héros là, que rien ne leur touche, rien ne leur fait. Tu sais, je veux dire, ils vivent quelque chose puis aucune émotion, ça ne nous dérange pas. On voit quelqu'un ici qui est comme nous. Hein, vous savez, dans Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Jacques était de même nature que nous. On va regarder ça tantôt. On va voir ce que ça veut dire. Mais moi, j'aime ça quand je vois ça parce que je me dis, je me retrouve là-dedans. Si ça ne serait pas ça, je ne me retrouverais pas. Ça serait trop beau pour être vrai. De voir l'humanité de ces gens-là, comme nous. Mais ce qui est beau aussi, ben on voit aussi qu'est-ce que Dieu fait avec ça, puis qu'il va faire aussi avec nous. C'est encourageant, c'est beau. Mais on voit ici qu'il est, on va dire, qu'il est perturbé, qu'il est sonné. Puis, justement, bien, je vais juste vérifier un petit peu mon affaire. Bien, c'est ça. Au verset 3, bien, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Donc, il avait peur. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Puis, pour lui, Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez ». C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. OK, c'est pas ça. Je disais ça, puis j'ai dit, bon, ça vous arrive-tu, vous autres, de vous dire des choses comme ça, là? Suite à une situation particulière ou un événement. Là, vous vous regardez, puis c'est comme vous n'êtes pas fier de vous. Peut-être de ce que vous avez fait, de ce que vous avez pensé. Moi, je ne suis pas meilleur que moi, hein? Je suis pas meilleur que lui. Je ne suis pas meilleur que là, là, c'est sûr, ici, bien, il prend l'exemple, puis on retrouve ça dans l'Ancien Testament, là aussi, là, dans les psaumes, où bien, souvent, là, quand il reconnaissait le faute, puis tout ça, souvent, il disait, on n'est pas meilleur que nos pères. Ben, on s'est pensé tellement meilleur peut-être, mais finalement, on est comme eux autres. Nous autres aussi, on rate notre coup. Nous autres aussi, malheureusement. Puis là, ben, bon, tu dis, dans quel sens? Je dis, je ne suis pas meilleur que mes pères. Qu'est-ce qui vivait dans ça, là? Est-ce qu'il y avait honte? De la solitude, sûrement, peut-être, hein, parce que là, il était tout seul. Du découragement. Il a dit, c'est assez, oui, c'est ça. Mais je veux dire, hein, quand même, pour demander la mort, il faut que ça soit fort. Là. Tu sais, je veux dire, avant, il allait bien, puis là, il va mal, puis tout de suite, il faut que je meure. Je ne suis pas capable de vivre ça. C'est trop dur, c'est trop intense. C'est fort. Pardon? C'est ça. Mais t'as raison, gars. Sûrement, il dit, je suis tanné aussi, là. Tu sais, ça se peut aussi, là. Écoute, Acab, il court après lui, même si, tu sais, on voit que ça allait bien. Je veux dire, comment il a vécu ça aussi, là? Là, on dirait que là, il épanche son cœur vraiment, là, puis là, il dit, qu'est-ce qu'il a vécu vraiment, là? Là, il y a tous les passages qu'on a lus avant, possiblement, là, qui sont là, qui l'ont usé, qui l'ont... tu sais, il y a eu une guerre de tranchées, là, je veux dire... Ça ne devait pas être facile de savoir qu'on court après toi et on veut ta peau, puis tout ça. Mais ça ne paraissait pas nécessairement. Puis bon, est-ce qu'il vivait ça à ce moment-là? Je ne peux pas nécessairement le dire. Ce n'est pas écrit nécessairement en tant que tel. Mais, Robert? Oui. Aussi? C'est vrai. C'est ça. Tout à fait. Oui, oui. Là, il dit, il va falloir que je revive ça encore une autre fois, peut-être. Là, tu ne te sens pas la force de vivre ça. Hein? Est-ce que ça vous arrive, ça, de vivre ça dans vos vies, des fois, des situations où est-ce que tu dis, oh non, pas encore ça. Là, tu sais, j'ai passé à travers ça de peine et de misère, puis oh non, encore. Hein? Jean-Claude? Oui. C'est ça. Oui. 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 Oui, tout à fait. Oui. Exactement. Puis je pense que peut-être par expérience, puis vous pouvez corroborer à ça, là. Tu sais, des fois, c'est ça, on réfléchit à des choses, des fois, là, puis ça peut nous pogner comme ça, là. La veille, on allait bien. La veille, on se sentait peut-être très fort. Tout allait bien. Le lendemain, on se sent comme... On dirait qu'on n'a plus rien, là. On dirait on est vidé, c'est ça. On a les jambes coupées. La veille, il me semble qu'on était fort. On sentait... On avait tout pour affronter la vie. Puis là, ben le lendemain, aïe, aïe, là, c'est plus ça pantoute. On dirait que c'est plus la même personne. On se reconnaît pas. Oui. Oui, ben oui, c'est ça. Il y a un trop-plein, là. Il y a quelque chose, là, que là, il dit, non, là, je ne peux plus, là. Je ne suis plus capable, là. Je taboute, oui, c'est ça, je taboute. Je taboute, oui. Exact. Oui. Oui. C'est ça. C'est sûr. Ouais. Tout à fait. Tout à fait, parce que oui, hein, on réalise aussi que oui, quand on se sent fort, ben, on n'a pas besoin de Dieu. Puis des fois, il faut aller là pour vraiment dire, Seigneur, c'est vrai, c'est toi là qui peux me sortir de ça, c'est toi qui es l'Éternel, c'est toi qui es vivant, je te fais confiance. Puis c'est notre lutte quotidienne, ou en tout cas, c'est la lutte à chacun de nous qu'on vit, puis que hein, vous avez tous vécu aussi, là. Vous avez aussi vos histoires, vous avez des beaux moments, des moments plus difficiles. Ça nous affecte. Je veux dire, faut pas être surpris de ça. Mais tu sais, c'est sûr, quand je regarde des fois, tu sais, c'est vrai que dans ça, des fois, quand on vit des choses aussi, des fois, ben, une autre chose qu'on peut vivre, des fois, ben, c'est comme, c'est ça, on vit une honte de quelque chose. Tu sais, on n'a pas été à la hauteur, ou bien, on n'a pas répondu aux attentes des gens. Puis là, ben, on a déjà vécu ça, peut-être dans le passé aussi. Ça fait que ça nous poursuit, ça, souvent. Ça nous revient à penser. Il y a comme une petite voix qui dit, ah, tu vois, t'es pas meilleur que les autres. Tu vois, ah, encore, tu as fait la même affaire. Tu as encore chuté. Ça fait que des fois, on est pris avec ça aussi dans nos vies. Ça nous poursuit. Il faut démasquer ces fausses hontes-là aussi, là. C'est sûr, des fois, il faut avoir honte quand que, c'est sûr, si on a fait du mal, on a péché, on devrait avoir honte. Mais il y a des choses qu'on ne devrait pas avoir honte. Mais malheureusement, on a appris ça dans notre jeunesse, on a appris ça à travers la vie. Les gens nous ont dit des choses, puis ça, on vit ça. Ça nous poursuit encore. Des fausses hontes, c'est ça. Il y a des vraies hontes, mais il y a des fausses hontes aussi. Puis on en a tous. Hein. C'est comme je dis, des fois, c'est cette petite voix-là qui est en arrière, là, qui nous rabaisse, puis qui nous dit, là, tu ne vaux pas grand-chose. Puis tu sais, ici encore, tu sais, j'essaie de comprendre quand il dit, bon, je ne suis pas meilleur que mes pères. Tu sais, est-ce qu'Élie a péché là, actuellement? Je veux dire, bon, on pourrait dire, ouais, il n'a pas trop confiance, là, hein, il n'a pas. Il n'est pas trop fort. Mais bon. C'est des choses à réfléchir, mais comme je dis un petit peu là, aujourd'hui, on va essayer de voir dans ça, c'est ça, là, dans nos vies personnelles, dans notre marche avec le Seigneur, c'est ça, on est appelé à persévérer. On est appelé à tenir le coup. On est appelé à marcher de progrès en progrès. On est appelé à suivre le Seigneur. Ça fait qu'on est confronté aussi dans nos vies à des choses qui, des fois, qui rendent ça difficile, qui nous amène dans des réflexions, dans du découragement. Parce qu'un peu, c'est ça, persévérer, dans le fond, on dit souvent, bien, on retrouve ça dans les Écritures. Ben en fait, c'est ça, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un mot dans les Écritures qui nous donne un peu cette définition-là, ou ce qu'on pourrait dire d'être capable de résister justement au choc là, de la vie, là, aux épreuves. Ça peut être des épreuves, juste des épreuves avec des personnes, mais aussi ça peut être des épreuves qu'on vit à cause de notre foi. On est persécuté, hein, on est appelé à résister là-dedans. Ça fait qu'il y a un mélange souvent de tout ça un petit peu. Puis c'est sûr, bon, je voulais vous demander le mot, bien, je l'ai un peu dit, là, puis le titre, c'est un peu de la persévérance. Quand on regarde dans les Écritures, le mot persévérance, bien, si on regarde un peu une des définitions de ça, bien, on dit dans le Nouveau Testament, c'est le trait caractéristique d'un homme ou d'une femme qui ne dévie pas de son but délibéré et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes épreuves et souffrances. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de versets de persévérance quand même, c'est associé à, disons, on est persécuté pour notre foi. Hein? Les épîtres, souvent, c'est écrit, les gens étaient persécutés. C'est ce qu'ils vivaient, c'était leur quotidien. Ça fait que le mot a beaucoup un gros sens par rapport à ça. Mais en même temps, on dit, bon, tu sais, quand tu regardes ça, cette définition-là, tu dis, hey, moi, là, je ne peux pas dévier, là, tu sais, il ne faut pas chambranler trop, là, parce que je ne serai pas persévérant ou des choses comme ça. On va justement un peu regarder ça, comment qu'on peut concilier ça, un peu ces choses-là. Par exemple, bon, si on lit dans ce verset-là de Hébreu, qu'on connaît bien aussi, après avoir parlé justement des, on va dire, des hommes et des femmes de foi qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, le chapitre 11 de Hébreu parle de ça, ces modèles-là de personnes. C'est pour ça qu'il nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés ou environnés d'une si grande nuée de témoins, bien ces témoins-là, c'est les témoins qui viennent de parler. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Bien sûr, bien, on est appelé à avoir les regards sur Jésus, qui est appelé le chef et le consommateur de la foi, qui, lui, bien, en vue de la joie qui lui était réservée, a fait quoi? Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Ça fait qu'on voit ici que quelque part, il y en avait sûrement qui étaient découragés. C'est comprenable aussi. Mais il dit, gars, oui, on peut vivre du découragement, mais aussi il y a une solution à peut-être à ne pas la vivre trop longtemps. Hein? Encore là, c'est sûr, c'est toujours de se tourner vers Dieu. Comme on a vu tantôt, Élie, il se reposait sur l'Éternel. L'Éternel est vivant, je suis son serviteur, je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais en même temps, on comprend que des fois, bien, une journée, on se sent fort, le lendemain, on ne se sent pas fort. Ça fait que nous aussi, on vit ça. Puis, c'est important de le considérer. Parce que souvent, un petit peu aussi, dans mon passé, je pourrais dire, la persévérance, j'avais l'impression souvent que c'était comme, ce qu'on disait, c'était comme on ne pouvait pas flancher. Ou il ne fallait pas le dire que ça ne va pas bien. Parce que là, c'est comme si on perdait notre spiritualité. Là. Pour moi, tu n'es pas spirituel ou il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait que c'est difficile de dire ce qu'on vit si on pense qu'on va se faire reprendre ou si on va se faire taper sa tête avec la Bible parce que, bon, on ne devrait pas chambranler. Mais bon, c'est sûr que le mot persévérance aussi, bien, je pourrais dire, souvent c'est associé aussi avec un autre mot qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les Écritures, mais quand on parle de persévérance, souvent aussi un mot qui peut lui ressembler, c'est la résilience. Hein? Vous avez déjà entendu ça, quelqu'un est résilient. Alors, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui est persévérant aussi dans la résilience. Ce mot-là, bien sûr, lui aussi, il va dire que c'est comme la capacité de résister au choc de la vie. Autrement dit, on encaisse les coups durs, puis on continue. Hein? Ça fait mal, mais gars, on continue, sans dire que tout va bien, mais on continue pareil. Ce mot-là est souvent compris comme ça aussi. Par exemple, on disait qu'anciennement, là, dans les forces armées, si quelqu'un s'inscrivait dans les forces armées, qu'est-ce qu'on leur disait? Bien, on leur parlait de résilience, de persévérance, qu'ils étaient appelés là, à être des personnes persévérantes, des personnes résilientes. Autrement dit, bien, les gens leur donnaient ça, on leur disait, bien, gars, on va vous déployer dans des zones vraiment difficiles. Alors, on comprend, tu vas aller dans des places, il y a des guerres, tu vois des scènes atroces, tu es confronté à ça, ça va être difficile, ça va brasser, vous allez être exposé à des situations là, vraiment hors de l'ordinaire, même catastrophiques. C'est ça l'armée. Là, il dit, par exemple, si vous êtes persévérant, résilient, bien quoi, vous saurez résister. Bien, il leur disait, bien non, bien, sans dire nécessairement qu'il allait être plus fort, mais s'il résistait, s'il absorbait les chocs, là, sans rien dire, bien, c'est à ça être résilient. Puis bon, est-ce qu'on peut dire on s'habitue à la souffrance, on s'habitue à l'horrible? Je pense que oui, peut-être. Là, les gens essaient de s'endurcir à ça, d'être moins affectés. Mais il leur disait ça, là. Il dit, il faut que vous, ce que vous allez voir, entendre, vivre, là, il faut que tu l'absorbes. Puis en plus, il ne faut pas que tu en parles à l'autre à côté, parce que tu vas le troubler. Si tu lui dis que ça ne va pas bien, là, ben là, l'autre aussi, il va dire moi aussi, puis là, ça va tout tomber comme un, t'sais, des dés qui tombent, là, un domino. Là. Donc, il leur disait ça. Donc, il ne fallait pas en parler de peur de troubler les personnes, les affecter. Puis bon, on est obligé aujourd'hui de comprendre que cette façon de dire ça aux soldats, ça n'a pas été très bon. Aujourd'hui, il y a plein de gens là, qui vivent des chocs post-traumatiques à cause de ça. Ils en ont pris conscience. Les gens se sont effondrés parce que c'était humainement impossible de résister. Donc, plusieurs ont abandonné, c'est sûr, et ils ont eu justement des conséquences, des troubles de santé sur le moment, puis plusieurs encore aujourd'hui en ont. Puis tantôt, on parlait de ça, frères et sœurs, on le sait, hein, même des fois dans des périodes d'accalmie, là, on peut vivre une situation, là, ça va bien actuellement, peut-être après-midi, il arrive quelque chose, ça va me frapper comme un train. Comment je vais le vivre? Je vais peut-être être terrassé, découragé. C'est comme des fois, je vois des patients, ils ont mal au dos. Disons, ils se font mal au dos, ils vont bien un temps, puis soudainement, bang, ils font un petit mouvement. Il y a quelque chose qui bloque dans leur dos, ils ne sont plus capables de bouger. On est vulnérable, tout le temps. Tant mieux quand ça va bien, on aime ça, on n'aime pas ça quand ça va mal, mais on est vulnérable. Puis nous aussi, les croyants, on est vulnérables. Cependant, ils se sont aperçus que vraiment persévérer, là, être résilient, c'est pas d'absorber les chocs de la vie comme si là, je suis fait en fer, là, puis ça me, ou comme on va dire, ça coule sur mon dos comme un canard. C'est pas ça être persévérant, c'est pas ça être résilient. Ils se sont aperçus que c'est la propriété d'une personne à rebondir. Ça veut dire que, mettons, mon état actuel est comme ça. Là, je vis quelque chose, hop, je pique du nez, mais je rebondis. C'est ça être résilient. C'est pas dire, là, moi, là, regarde mes muscles, là. Moi, j'ai vécu telle situation, là, puis ça ne m'a rien fait. J'ai passé ça de même, là, comme un train, ça ne m'a pas dérangé. Mais des fois, on voit ça chez des gens. C'est comme si, là, être résilient, persévérant, je ne peux pas être affecté, ça fait faible ou ça fait, je ne sais pas quoi, ça ne fait pas spirituel même. Puis des fois, on ne comprend pas bien ça. Ça fait que d'être affecté, c'est normal. Puis peut-être qu'aujourd'hui, bien, vous vivez quelque chose aussi, puis vous êtes affecté. Puis peut-être vous en avez honte. Parce que vous sentez que vous ne devriez pas être comme ça. Je connais le Seigneur, moi. Il me semble que je ne devrais pas être comme ça. Donc, rebondir, frères et sœurs, implique tout d'abord qu'il y a eu une forme de déstabilisation. Déstabilisation. On est souvent déstabilisé. Puis c'est normal. Parce qu'on est des humains. On est des humains. Donc, si on considérait un peu cette ancienne façon de voir, bien, tu pouvais, si tu étais déstabilisé, bien, tu n'étais pas persévérant. Tu n'étais pas résilient. Donc, la question de persévérer ou d'être résilient, ce n'est pas de savoir si on va être déstabilisé. On va l'être, mais par la suite, on va rebondir. On va rebondir. On va remonter la côte. Des fois, ça prend du temps. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce qui nous aiderait à être résilients aujourd'hui, à être persévérants? Bien, si on regarde Élie, bon, qu'est-ce qui nous aiderait à être persévérants, résilients? Bien, se rappeler que nous sommes des êtres humains, que nous vivons dans un monde déchu, donc difficile d'y vivre. Des fois, on a de la misère à accepter ça. Puis, on ne se rend pas compte de ce que le monde nous amène comme problématique, comme difficulté. Pas juste au niveau de notre santé physique, mais aussi au niveau émotionnel, relationnel. Si on se rappelle ça, bien oui, on va être déstabilisé, mais je crois qu'on va mieux le vivre. Comme tantôt, des fois, on se culpabilise des fois de vivre quelque chose, où on ne se sent pas à la hauteur face à ça. On pense qu'on devrait être plus fort encore, puis on ne l'est pas. De comprendre ça, ben, je crois que ça nous aide. Parce qu'après ça, bien, on fait quoi avec ça, là? Quand on prend conscience de ça, bien, on peut travailler justement sur des fausses ondes qu'on peut avoir aussi, là. Oui. Tout à fait. Puis bon, hein, on comprend aussi que l'expérience aussi, on voit dans Pierre, puis Jacques souvent nous disant que on vit des tribulations, on vit des choses, ben ça nous amène à, ça va nous conduire aussi dans la persévérance, que Dieu met des fois des situations qu'on vit difficiles, c'est pas pour nous punir ou quoi, mais on va apprendre de ça, puis on va s'en sortir avec Dieu. Puis comme vous dites, ben c'est sûr, on a toute une expérience dans des choses. Dans certaines choses, quelqu'un a vécu, il y a un passé ou il y a une histoire de vie où ce qu'il était confronté à des choses, il a composé avec ça, il s'en est remis à Dieu, il a grandi là-dedans. Ça fait que c'est sûr, comme vous dites, mettons, s'il vit quelque chose de similaire, il y a une expérience qui est là, il a vu Dieu à l'œuvre, il a une confiance aussi qui est plus forte. Puis c'est sûr qu'il peut remonter beaucoup plus vite qu'une autre personne. Ça, c'est vrai. On a toutes nos expériences, puis on a tout un degré de maturité dans ça aussi, où ce qu'on est rendu. Puis, c'est ça la vie. Mais en même temps, c'est ça, comme on dit, de se rappeler ça. Comme je dis ici, bien, la vérité est que la vie n'est pas facile et que nous rencontrons tous, parfois, des déceptions, des pertes ou des souffrances. La vie est une route avec des nids de poules. On connaît ça ici au Québec, là, hein? Il y a des nids de poules. Et personne n'en est exempt, qu'on soit croyant ou pas. Donc, il ne faut pas oublier notre humanité. Ne faut pas oublier que nous vivons dans un monde déchu. Se casser un bras peut faire extrêmement mal. Que penser d'une situation qui m'affecte d'un point de vue personnel, qui m'affecte dans mon être intérieur, qui affecte mes pensées, mes sentiments? Comme je mentionnais tantôt, on accepte mieux la douleur physique. Hein? On n'a pas de misère à consulter. Mais si on vit quelque chose d'émotionnel, relationnel, on a de la misère. Même on a de la misère à en parler à quelqu'un. On dirait que c'est un tabou, ça. C'est tabou, ça. C'est pas bon. On ne sera pas supposé de vivre ça. Et comme je dis, bien, à travers ça, on peut vivre de la honte aussi qui est là, de la fausse honte. C'est ça, dans Jacques 5, 17, comme j'avais mentionné tantôt, bien, Jacques il nous rappelle qu'Élie est un homme de la même nature que nous. Et l'expression un homme de même nature que nous pourrait être traduit par un homme ayant les mêmes sentiments ou aux souffrances semblables. Ça fait que, on voit ici que Jacques est en train de dire, ben, Élie a souffert. Puis, ce qu'il a souffert, ben, on peut le souffrir nous aussi. Mais en même temps, bien, Élie peut devenir un modèle pour nous aussi, ou quelque chose, une personne à qui on regarde, puis qui nous donne de l'espoir. De voir comment il s'en est sorti, de voir comment Dieu a agi. Puis on va terminer avec ça tantôt, voir un petit peu comment Dieu est intervenu dans sa situation. Bon, l'autre chose, c'est toutes des choses qu'on sait, frères et sœurs. L'idée là-dedans, c'est de s'aider à progresser dans ça. Dire aujourd'hui, c'est vrai, j'ai compris quelque chose, ou bien ça nous aide à vivre, à s'encourager. Donc, l'autre chose, bien, c'est quoi se rappeler, dans le fond, oui, on est des humains, mais on n'est pas juste des humains. On est des enfants bien-aimés de Dieu, sur qui Dieu, hein, il a mis toute son, il a, comme il dit, là, il a mis toute son affection dans son Fils. Nous, on a toute son affection, nous aussi, là. que Dieu est une personne bienveillante aussi pour nous, qui est là pour nous, qui prend soin de nous, qui nous garde, qui nous protège. Parce que quand on regarde ça à la persévérance, frères et sœurs, il faut comprendre que, comme j'ai dit, si on persévère, oui, on comprend des choses là, de notre humanité, on n'est pas surpris de ça, puis on ne se fouette pas avec ça non plus, puis surtout on ne juge pas les autres qui vivent ça aussi. Hein? Des fois, on peut être porté à penser que quelqu'un vit ça, puis lui, comment ça se fait qu'il vit ça, puis bon, on porte des jugements sur les personnes. Tantôt, Élie, on pourrait dire, là, si on le mettrait à la sauce contemporaine d'aujourd'hui, peut-être qu'on dirait, moi, Élie, il n'est pas trop fort comme chrétien. Tout ça un peu nous amener plus loin. Donc, bien-aimé de Dieu, donc il faut penser, pas penser, mais on sait que Dieu va être bienveillant pour nous à travers ce qu'on vit. Comment qu'il va agir là-dedans pour nous aider, nous garder à persévérer? Oui, à être affecté, mais à rester, à garder le cap. Ah oui, je m'en vais par là, mais là, actuellement, c'est difficile. Puis Dieu agit, puis là, quand il me relève, puis je continue mon chemin. Donc ça, c'est de la bienveillance. Puis c'est sûr, quand on regarde la bienveillance, bien... On voit même, un peu, je regardais dans le Nouveau Testament, là, même on voyait l'apôtre Paul, à un moment donné, il échouait, puis il disait que les barbares les avaient accueillis avec bienveillance. C'était des barbares, là. Ils ont pris soin d'eux, hein, ils arrivaient de l'eau, venez, on va faire un feu, puis tout ça. Ils ont été bienveillants. Paul, c'est ça qu'il dit. Hein, la bienveillance, c'est de l'amour pour le genre humain. C'est ça que ça veut dire. Le mot en grec, ben, c'est philanthropia, hein, ça vient de l'amour philanthropie. Donc, un amour pour le genre humain, Dieu a de la bienveillance pour nous. Le mot veut dire aussi, c'est une disposition d'esprit qui nous amène à être indulgents face à la souffrance d'autrui ou même à notre propre souffrance. Des fois, on n'est pas indulgent face à ce qu'on vit. On est dur envers nous. On est dur envers les autres. Hein, le souverain sacrificateur, dans Hébreux 5.2, il dit, hein, on comprend le souverain sacrificateur, lui, il faisait le pont d'une part avec Dieu qui était saint, puis avec les hommes qui étaient des pécheurs, tout ça. Puis le souverain, bien, il rentrait une fois par année dans le Saint des Saints avec le sang des taureaux, le sang, tout ça pour le péché. Le péché, pas seulement du peuple, mais ses propres péchés aussi, pour qu'il puisse avoir un pardon de ces péchés-là. Bien, il dit qu'une de ses caractéristiques, bien, il dit qu'il peut être indulgent. Puis dans certaines versions, ils ont marqué ça par de la compréhension. Ils ont mis le mot compréhension. Il dit être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est sûr que le contexte, quand même, c'est en rapport avec le péché, mais il était sûrement indulgent aussi par rapport à la vie de tous les jours. Mais le contexte, c'est sûr, c'est plus là, avec la notion du péché, on s'entend là-dessus. Donc, le mot indulgent, compréhension, ça veut dire aussi de celui qui n'est pas indûment affecté par les erreurs, la faute des autres, mais les supporte calmement. Être indulgent. Avoir de la compréhension. Tout ça nous amène dans la bienveillance envers les gens, quand on comprend les gens. Ce n'est pas ici nécessairement de cautionner le péché, mais on peut comprendre, essayer de comprendre pourquoi, puis être bienveillant dans ça aussi. Il dit ici que même la faiblesse, hein, il dit la faiblesse est son partage. La faiblesse ici parle de faiblesse physique, dans un sens on peut manquer de force, on peut être infirme, on peut avoir une maladie, donc une fragilité dans notre corps. Puis aussi, c'est une faiblesse de l'esprit aussi. Ce n'est pas juste le corps, la faiblesse. Donc, il y a une faiblesse de l'esprit. Puis cette faiblesse de l'esprit-là, bien, ça dit que ça peut nous emmener dans la difficulté à contenir les désirs malsains ou à supporter les épreuves et difficultés. C'est ce qu'on est. Puis le souverain sacrificateur, bien, on sait que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Il est indulgent. Il est compréhensif. Il nous comprend. Il est bienveillant. Dans l'Ancien Testament, aussi des versets, je crois que pour nous, les croyants qu'on lit, c'est des versets qu'on aime beaucoup parce que c'est tellement beau. Dans Lamentations 3, 19 à 23, Jérémie, bien, ça ne va pas bien pour lui. Puis là, bien, il dit, « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Hein? Ça t'adure. On comprend, là. Hein? Le peuple était déporté, tout ça, ça allait mal. Puis on se met dans sa place, on dirait, moi aussi, je serais comme ça. Mon âme est abattue. Mais il dit, voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est ça Dieu. Pour nous, ses enfants. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Hein, malgré la rébellion de son peuple, Dieu avait des plans bienveillants encore pour eux. Puis il y en a pour nous aussi. Il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui. C'est vrai. Oui. Ça fait du bien. C'est vrai que c'est renversant. Humainement, c'est impossible là, de dire ça. Hein? Il a fallu que quelqu'un part malgré tout ça, justement, ces bontés-là, il les a expérimentées, il les a vues. Il est capable de le dire, pas juste pour dire ça paraît bien, parce que c'est vrai. Puis nous, aujourd'hui, ben, on peut le dire aussi comme ça, nous aussi. On a besoin de se rappeler ça dans notre quotidien, dans notre marche avec Dieu, de penser que Dieu est bienveillant à notre égard. Sa bonté, ses compassions ne s'épuisent pas, ne sont pas à leur terme. C'est ça, si on retourne dans 1 roi, hein, on voit là, que Jérémie avait demandé à Jérémie, Élie avait demandé à la mort. Au verset 5, il dit, « Se coucher, s'endormit sous un genêt, et voici quoi un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Hein, » on voit qu'il n'est pas laissé à lui-même. On voit que Dieu est bienveillant pour lui. Il envoie un ange pour l'assister, pour l'aider. Puis ça me faisait penser, bien, le Seigneur Jésus aussi, quand il était dans le jardin, là, puis qu'il savait qu'il allait mourir, c'était dur, qu'est-ce qu'il a reçu comme visite? Un ange qui est venu pour le fortifier. Il a eu besoin de ça. Puis nous aussi, bien, quelque part, on a besoin d'être fortifiés. Sur Alphonse, on verrait un ange aujourd'hui qui viendrait, puis hein, il nous dit « mange ce pain-là ». Mais je veux dire, on peut le voir dans des situations, comment Dieu, des fois, agit, prend soin. Puis tu sais, c'est sûr, on aimerait ça, là, qu'à toutes nos requêtes, là, Dieu les exécute tout le temps, quand ça va mal, tout va bien, mais on sait que c'est pas comme ça. Mais on est capable de pointer des moments où on dit « Seigneur, t'es intervenu ». C'est ça, ben, je ne me souviens pas si je l'avais déjà raconté, là, peut-être vous allez me trouver pas flyé, mais je ne suis pas quelqu'un qui rêve. À un moment donné, ben, c'est ça, ça fait quelques années un peu, c'est ça, c'était difficile dans le travail. Puis là, ben, je me souviens, là, je dormais, puis c'était le temps des vidanges. C'est que là, je me souviens, j'amène le bac à la rue, puis là, le camion, il arrive. Pogne le bac de vidange, puis en même temps qu'il se vide, j'entends une voix. Une voix qui me citait carrément là, un verset, je vais vous le lire, J'étais dans 1 Pierre. Un Pierre 5, 17, si je ne me trompe pas, attendez un petit peu, voir. Non, c'est 5, 7. Pendant que le bac, là, il prenait le bac puis il le vidait, là, ça, j'ai entendu là, une voix là, auditive, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » car lui-même prend soin de vous. S'il prenait les déchets, là, on s'en occupe toutes les semaines, t'amènes ça, regarde-moi, là, je suis pareil. Amène-moi tes soucis, je prends soin de toi. Puis je ne vous invente rien, là. Ça ne s'est pas reproduit, mais j'ai vécu ça, entre autres. Oui. Oui, il est parti avec les poubelles. Oui. Non, mais dans ça, gars, c'est une question encore de confiance. T'sais, je veux dire, tu expérimentes quelque chose, mais ça a souvent besoin d'être renouvelé parce que on est des humains. Quand c'est dur, on souffre, on n'aime pas ça. On se décourage. On se demande, Dieu, es-tu là, Seigneur, es-tu là? On a besoin de revisiter ça, de revivre ça. On a besoin encore de mettre notre confiance. Comme je dis souvent, tous les jours, ma prière au Seigneur, c'est de dire, Seigneur, aujourd'hui, je mets ma confiance en toi. Je la remets aujourd'hui. Puis demain, ça va être pareil. J'ai besoin de mettre ma confiance en lui. Pas pour qu'il me sauve, mais ma confiance à moi, dire, Seigneur, c'est toi l'Éternel. C'est toi qui prends soin. Je peux me confier en toi, même si ça ne va pas bien. Puis, c'est une décision, c'est un choix que je fais. Mais ce n'est pas toujours facile quand ça ne va pas bien. La bonté de Dieu, sa bienfaisance, bienveillance, je m'excuse. Bon, j'ai perdu mon affaire. Au revoir, vous êtes encore là. Je vais terminer avec ça. Merci de votre patience. Alors, on voit qu'un ange qui est arrivé, bon, que dimanche, tout ça. Au verset 15, l'Éternel lui dit, bien, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. C'est le fun de voir que l'Éternel, malgré tout ça, hein, il lui fait aussi encore confiance. Hein, il renouvelle sa confiance. Tu es capable. C'est ça, tu n'es pas disqualifié. Vas-y, va là-bas, je vais être avec toi. Hein, il aurait pu dire, « Ouais, t'es pas fort. Tu ne mérites pas là, qu'on te reprenne. Tu ne mérites pas une autre chance. Tu ne mérites pas. » Il a dit, « Oui. Va. » Je ne me souviens pas, je pense. Je ne sais pas si j'ai l'ordinateur. Je ne sais pas si c'est super, c'est fermé. C'est moi qui ai fermé ça. Ah oui, la pile, c'est ça, excuse. Oui, c'est ça, j'ai oublié de... Tantôt, c'est ça, Richard est arrivé, puis j'avais préparé ça, mais il y avait besoin de... Un peu. C'est ma pile, oui. Bon. On va essayer de... allumé. Ouais, faut tout être branché. J'ai pas branché ça à la bonne place. Bon, ça devrait être bon. Bon, en fait, c'est ça. Dernier point, c'est ça que je voulais vous lire aussi là, dans Colossiens. Je vous lis vite, frères et sœurs, pour nous encourager. Paul il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de vous demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse, intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ça dit au verset 11, « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. » Donc le mot « persévérant » ici renvoie à la capacité de supporter des circonstances difficiles, tandis que la patience réside dans l'attitude à supporter des personnes difficiles. On voit encore là que Dieu dit « Je suis fortifié par Dieu ». Je peux me confier que Dieu va me fortifier dans ces situations-là. Puis ce qui est beau, bien, c'est de voir aussi la bienveillance de Paul qui dit, bien, aussitôt qu'on est informé de votre foi en Jésus-Christ, quoi, on prie pour vous autres. On exerce aussi la bienveillance. On est appelé à exercer la bienveillance. C'est pour ça, frères et sœurs, ce qui nous aide à être persévérants, résilients, aussi bien, ainsi donc, comme des élus de Dieu saints, et bien aimé, bien revêtez-vous. Puis je termine avec ça dans Colossiens. Bien, vous connaissez ça aussi, ces passages-là, où ce qu'on est appelé à être bienveillant dans nos actions, les uns envers les autres. Donc Colossiens chapitre 3 verset 12. Il dit donc ainsi donc comme des élus, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Hein? La bonté là, c'est être bienveillant, c'est l'amour en action. D'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre, bien pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, bien pardonnez-vous aussi. Et par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Donc, frères et sœurs, bien, ce qui est encourageant, c'est que Dieu nous soutient. On est fortifié par lui. On peut compter sur sa bienveillance, puis se rappeler aussi que nous sommes des humains. On souffre. Ce n'est pas facile, des fois. Puis, on n'a pas à avoir honte de ça. Puis ensemble aussi, bien, être bienveillants les uns envers les autres. Puis j'avais noté ça un peu aussi, là, juste les effets de la bienveillance sur la personne qui la reçoit. Ils disent, par exemple, que quand quelqu'un reçoit de la bienveillance, ils disent que ils ont démontré ça par des études. Le temps de guérison de plaies ou de blessures diminue de 17 %. La perception de la douleur diminue de 50 %. Il se traduit par 50 % moins d'analgésiques opiacés en post-op, en post-opératoire. Bon, ils disent aussi que ton système immunitaire, l'interleukine 8, là, ça, c'est le système immunitaire, entre autres, ben, va augmenter. La bienveillance d'un soignant s'avère plus efficace qu'un antidépresseur dans des cas légers à modérés. C'est quand quelqu'un est bienveillant. Quand tu reçois la bienveillance, ça fait ça. Est-ce que quand Dieu est bienveillant pour nous, ça peut faire ça aussi? Hein? Peut-être bien plus. Puis vous savez quoi aussi? Il y a les effets de la bienveillance sur qui l'offre. C'est pas juste celui-là qui le reçoit. Ils disent l'inflammation diminue. La tension artérielle diminue, l'humeur s'améliore. Il dit que c'est le meilleur facteur de protection psychologique connu. Être bienveillant envers des gens, ça a un effet psychologique sur celui qui le donne. Il dit que c'est le meilleur facteur. En 2019, lors d'une étude sur l'épuisement professionnel, on disait qu'un des facteurs dominants de l'épuisement professionnel résidait dans le manque de relations humaines significatives et bienveillantes au travail, et que c'était plus significatif que le stress ou la charge de travail. Souvent, on va dire, « Ah, oh, je suis trop stressé, c'est à cause du stress, c'est la charge du travail. » Oui, c'est des facteurs, mais le facteur premier, c'est quoi? Le manque de bienveillance dans nos relations. Donc, frères et sœurs, encourageons-nous à persévérer, à prier les uns pour les autres, comme on voit que Paul le fait, avoir confiance qu'on est bien aimé de Dieu, qu'on est des humains, puis encourageons-nous à être bienveillants, aussi à être bienveillants les uns envers les autres. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci de prendre soin de nous, Seigneur Dieu. Encore, on veut être reconnaissant. Père Céleste, merci, c'est toi, tu es notre Créateur aussi, tu nous connais. Et Seigneur, bien si on, aujourd'hui même, actuellement, bien, on est affecté justement à cause de notre humanité, Seigneur, on est affecté qu'on vit dans un monde déchu, difficile. Père Céleste, bien, on veut se tourner vers toi encore, on veut compter sur ta bienveillance. Et Seigneur aussi, bien nous aussi, on veut être bienveillants les uns envers les autres, comme tu nous invites à le faire, Seigneur Dieu. Alors, merci pour ta parole, merci pour ces modèles de foi, Seigneur Élie, malgré tout ça, qui était un homme comme nous, qui a souffert comme nous aussi, bien, tu as pris soin de lui, Seigneur, et puis tu l'as assisté, tu l'as accompagné dans son ministère, même s'il y a eu des ratés, tout ça, Seigneur. Ça faisait partie de ça, puis tu étais bienveillant, Seigneur. Ça nous encourage à nous aussi dans ce qu'on fait, dans qui nous sommes aussi. Alors, Seigneur, bénis mes frères et sœurs, viens agir dans nos cœurs. Tu connais nos vies à chacun, nos besoins. Alors, Seigneur, encore bien, on te dit merci, on crie Alléluia, Seigneur, d'un cœur réjoui et reconnaissant, comme on disait tantôt. C'est dans le beau nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Bonne journée, frères et sœurs.